LSD, la série documentaire. Un podcast France Culture.
Pendant des années, je ne savais même pas où était la rue Villa. Pendant des années, après, je savais où c'était, mais je ne voulais pas y aller. Et après, j'y suis allé et je ne savais plus où était la maison de ma grand-mère, l'immeuble dans lequel habitaient mes parents. Disons, je ne voulais pas le savoir. Et en même temps, je savais bien que c'était ça qu'il fallait que je sache, que je trouve, que je cherche.
Sur les lieux de Georges Perec, une série documentaire de Claire Zalk et d'Iffy Mariani. Épisode 1, la rue Villain, le lieu de l'enfance.
Georges, il n'a jamais eu de voiture, il ne pouvait pas conduire parce qu'il était dyslexique, enfin, il confondait sa gauche et sa droite de toute façon.
Sylvia Richardson, petite cousine et filleule de Georges Perec.
Et il aimait beaucoup marcher, donc il se baladait à Paris. Et donc quand on allait le voir, moi non plus, j'avais toujours l'habitude qu'on m'emmène en voiture. Il me disait, mais non, on va aller au cinéma, on va à pied. Bon, alors, une demi-heure après. Donc il m'a fait découvrir un autre genre de rapport avec la ville.
Dans vos promenades dans Paris, est-ce qu'il vous a emmené rue Villain?
Non.
Est-ce que vous y avez déjà été?
Non.
Jamais?
Jamais.
Est-ce que vous vous souvenez qu'il vous ait parlé une fois de la rue Villain et de sa signification?
Très franchement, je ne crois pas.
Claude Burgelin, biographe et ami de Georges Perec.
Je savais qu'il était né à Belleville. Je savais, disons, ce qu'on pouvait dire en trois lignes sur cette histoire-là. Mais ça n'allait pas au-delà. Non, il y avait un rideau de fer à baisser sur ces années-là.
Dans mon travail d'historienne des migrations et des persécutions, j'essaye de réfléchir aux manières dont les hommes et les femmes sont ramenés, assignés, attachés à des lieux, hors de la perspective de l'enracinement. Au cours de mes enquêtes, je ne cesse de croiser Georges Perec. Il se place sur ma route, il surgit dans mes archives, il plane sur mes terrains. Je ne cesse de fréquenter ces lieux. Pour commencer, je me demande si l'historienne que je suis peut apporter une pierre, quelques cailloux peut-être, sur le chemin tracé par Georges Perec pour lever le rideau de fer tombé sur son lieu d'enfance, la rue Villain, alors que la rue elle-même a disparu du paysage.
Dès les années 20, il était question de raser ce quartier vétuste et de le remplacer par des jardins publics. Et effectivement, c'est ce qui a été fait. Mais au bout de 60 ans...
Denis Cosnard, journaliste.
En 82, on a donné les derniers coups de pioche, on a détruit les derniers immeubles, et puis petit à petit, on a construit à la place un grand parc, le parc de Belleville. Il subsiste un tout petit bout de la rue Villain, mais voilà, c'est juste un nom pour quelques mètres d'asphalte. Plus personne n'a pour adresse la rue Villain, c'est essentiellement un élément du parc de Belleville.
Bonjour, je peux vous poser une question très rapide. Ouais.
Est-ce que vous savez où est la rue Villain?
Non.
Non. Non.
Elle est là. Vous montez. Je sais où est la rue Villain. Vous montez. Là, première à gauche, dans la montée.
La rue Villain a été démolie entre 65 et 69.
Joseph Pantaléo, propriétaire du bar Le Vieux Belleville.
Et elle est restée en friche pendant presque une dizaine d'années. Et à partir de 76, 77, 78, peut-être même 80, le parc de Belleville, qui est aujourd'hui le parc de Belleville, est sorti de terre.
Cette rue est donc posée à flanc de colline. Elle monte doucement et puis après deux tournants assez marqués, elle aboutit à la rue Pia par un escalier plutôt raide de 40 marches.
Nous, ces escaliers, on les a descendus, remontés, peut-être des milliers de fois. Quand on partait au métro Couronne, on descendait par les escaliers. quand on n'avait pas envie de remonter, on prenait le métro à Pyrénées. Ils ont été démolis, je crois, en 77-78.
En haut des escaliers, on arrive à une esplanade où l'on découvre l'une de mes vues préférées sur Paris. Ce quartier, je n'y ai pas grandi, mais j'y habite. La crèche de mes enfants était à deux pas, et je suis donc passée matin et soir accrochée à leur poussette pendant plusieurs années. C'est aussi un de mes lieux d'enquête. J'ai travaillé sur les habitants, les boutiques et les ateliers de ces portions de rue aujourd'hui englouties. J'y emmène tous les ans mes étudiants, dans un circuit qui passe par la petite synagogue de la rue Julien-Lacroix, la pâtisserie La Rose de Tunis et la bibliothèque Georges Perec.
Nous vivions à Paris, dans le 20e arrondissement, rue Villain. C'est une petite rue qui part de la rue des Couronnes et qui monte, en esquissant vaguement la forme d'un S, jusqu'à des escaliers abrupts qui mènent à la rue du Transvaal et à la rue Olivier-Métras. C'est de ce carrefour, l'un des derniers points de vue d'où l'on puisse, au niveau du sol, découvrir Paris tout entier, que j'ai tourné en juillet 1973 avec Bernard Cézanne, le plan final du film « Un homme qui dort ». La rue Villain est aujourd'hui aux trois quarts détruite. Plus de la moitié des maisons ont été abattues, laissant place à des terrains vagues où s'entassent des détritus, de vieilles cuisinières et des carcasses de voitures. La plupart des maisons encore debout n'offrent plus que des façades aveugles. Il y a un an, la maison de mes parents, au numéro 24, et celle de mes grands-parents maternels, où habitait aussi ma tante Fanny, au numéro 1, étaient encore à peu près intactes. On voyait même, au numéro 24, donnant sur la rue, une porte de bois condamnée au-dessus de laquelle l'inscription « coiffure dame » était encore à peu près lisible. Il me semble qu'à l'époque de ma petite enfance, la rue était pavée en bois. Peut-être même y avait-il quelque part un gros tas de pavés de bois, joliment cubiques, dont nous faisions des fortins ou des automobiles, comme les personnages de l'île Rose de Charles Vildrac.
Avant-guerre, la rue Villain, c'était tout pour Georges Perec, pour le petit garçon qui a vécu rue Villain de sa naissance en 1936 jusqu'en, mettons, 1942. Il a passé 6 ans sur place, et il y avait donc sur place Georges Perec, ses parents, qui habitaient donc au 24, ses 4 grands-parents, qui habitaient soit au numéro 1, soit au numéro 24, sa grand-mère qui tenait donc cette petite épicerie, plusieurs oncles et tantes, un oncle qui tenait une maroquinerie rue de Belleville, et puis il y avait aussi ensuite sa petite sœur qui est née en 38.
Donc là, on ouvre les listes nominatives du recensement de 1931 concernant le quartier donc, de Belleville. Et la rue Villain, elle doit être tout à la fin, voilà. Voilà. Donc là, on est au 1 de la rue Villain. Et on va avoir pour chacun des numéros les personnes qui habitent dans la rue Villain. Donc on voit qu'il y a un charcutier, Gaston Billet, avec son épouse, Berthe, qui est née dans le Cantal. Lui est né dans l'Aisne. Puis on a Carlo Yujian, qui est tailleur. Et puis on a Léon Lamé, qui est mécanicien, et son épouse Geneviève, Gaston Dupré, Marie Tachon, Ernestine Moret, qui est née en 1863 en Normandie. Et puis Aaron Choulevitch. Donc Aaron Choulevitch, c'est le grand-père de Georges Perec. Et on voit qu'en 1931, il est déclaré au 1 avec toute sa famille, c'est-à-dire Aaron qui est né en 1889, qui est casquetier, Gitla, né en 1888, son épouse, sans profession, et leurs enfants, Henri, l'aîné, né en 1908, qui est maletier, c'est ce que je lis, Arnaud, né en 1910, qui est son enfant et qui est maroquinier, Cécile, alors il n'y a pas deux à Cécile, hein, C-E-C-I-L, qui est née en 1913, qui est aussi une fille, il n'y a pas de profession indiquée, et Fanny, née en 1926, qui est née à Paris.
Et donc Cécile, c'est la mère de Georges Perec.
Cécile, c'est la mère de Georges Perec, qui est née en 1913.
J'ai retrouvé dans les archives la description de la rue Villain en octobre 32. Il y a un incendie à ce moment-là, au 31 de la rue Villain. C'est la baraque en bois des Goldfarb qui est partie en flammes. Et les journalistes accourus sur place décrivent cette rue. Ils parlent de la grouillante rue Villain qui est en quelque sorte le ghetto de Belleville. Ils parlent de l'accumulation de bicoques vétustes où l'on parle yiddish, l'agglomération de masures bâties en espalier, un labyrinthe d'escaliers de coins et de recoins. Ici, nous sommes au royaume des taudis, une espèce de ghetto pour artisans étrangers réduit à la portion congrue du logement, résume le journal Le Peuple. Voilà, c'est à ça que ressemble la rue Villain quand la famille de Pérec s'y installe.
Le registre analytique du commerce, donc on constate que sous le numéro 631320 est enregistré Itchek Pérec, qui est né en 1909 à Lubartow, en Pologne, de nationalité polonaise, et il est arrivé à Paris en 1927.
Dominique Juignet, archiviste.
L'objet du commerce est un atelier de coiffure situé 24 rue Villain, dans le 20e arrondissement. Et le commencement de l'entreprise est indiqué au 15 février 1935. Et dans la rubrique observation, on constate que ce monsieur est marié sous le régime de la communauté légale. Donc ça signifie qu'il s'est marié en France.
C'est bien Cécile qui tient l'atelier de coiffure. Mais c'est son époux, Itchek, qui le déclare légalement. Pratique courante dans ces années de minoration de la femme commerçante. Cécile et Itchek Pérec, les parents de Georges, se sont mariés quelques mois auparavant, le 30 août 1934, dans le 20e arrondissement. Cécile vient d'accéder à la majorité légale, qui est alors de 21 ans. Leurs témoins sont deux voisins du quartier, un coiffeur de la rue du Pressoir et un tailleur installé au 48 rue Julien Lacroix. Cécile et Itchek se sont sans doute rencontrés dans ce quartier, peut-être même dans la rue Villain. Les parents de Cécile sont au 1, ceux d'Itchek au 24. 18 mois après leur mariage, naît leur premier enfant, Georges.
C'est la date à laquelle Georges Pérec a été inscrit dans cette école. Donc on le trouve sous le numéro de matricule 406. Et on découvre que c'est un enfant d'origine polonaise, qu'il est né le 7 mars 1936, que l'un de ses parents, donc en l'occurrence sa maman, était coiffeuse, et qu'il habitait au 24 rue Villain, et que son père a été tué à la guerre. Mais ça, cette information a dû être portée après l'inscription, puisque son père est mort en 1940.
Tout le travail de cette biographie a consisté à me rapprocher de ce que j'avais été, essayer de réinventer, essayer de retrouver dans l'écriture la trace réelle de ce qui avait été moi et de ce qui avait été mes parents. Essayer de prendre en charge leur mort, leur vie et leur mort. Et ma vie.
Il a quitté la rue Villain et Paris très probablement au printemps 42.
Claude Burgelin.
Il est parti avec un convoi de la Croix-Rouge à Villard-de-Lans. Et un beau jour donc de ce printemps 42, il a dit au revoir à sa mère sans savoir qu'il la voyait pour la dernière fois. Et la tragédie qui a été pour lui d'avoir perdu tout souvenir de sa mère. Il ne se souvient plus des traits de son visage, de sa voix, de ses paroles. C'était une amnésie ravageuse. Il avait 5 ans et demi, 6 ans.
C'est un peu comme si on m'avait mis un bandeau sur les yeux et puis j'avais marché. Et puis il était resté quelques petites choses. Et quelques années après, le bandeau enlevé, je me promène dans un paysage que je ne reconnais pas. Mais j'ai la certitude de l'avoir déjà fait, ce chemin.
Il y a énormément de choses autour de cette rue Villain. Parce que c'est le lieu ce serait à la fois le Graal de pouvoir y revenir, et c'est le lieu auquel il s'interdit de revenir. C'est le lieu presque phobique pour lui. Il est frappant de voir que, adulte, il entre dans la cour de la rue Vilain, mais ne va pas frapper à la porte du local où il a vécu. C'est un geste impossible pour lui.
Est-ce pour rendre ce geste possible que Georges Perec échafaude, en 1969, le projet de lieu ? Ce projet d'écriture, à la fois fantasque et mythique, consiste à se rendre chaque mois dans 12 lieux parisiens, attachés d'une manière ou d'une autre à un événement marquant de sa vie, pour le décrire le plus précisément possible, puis à rédiger chaque mois, où il veut cette fois-ci, un souvenir lié à ce lieu. Ces textes sont mis sous enveloppe et cachetés à la cire. Le tout est censé durer 12 ans. Mettre en place ce procédé d'écriture lui permet, le contraint aussi, à revenir chaque année rue Vilain.
C'est un projet que j'ai eu en 1969. J'ai décidé un jour de faire des descriptions de lieux à Paris, selon un protocole très précis. Je me disais, bon, je vais entasser ces descriptions et ces souvenirs dans des enveloppes, un peu comme on fait ce qu'on appelle des bombes du temps.
Donc racontez-nous peut-être un petit peu, donc il se déplace dans le lieu
oui.
Avec des carnets.
Oui, alors c'est des carnets, parfois ce sont des feuilles volantes ou qu'il arrachera après ou qu'il a arraché au préalable.
Jean-Luc Joly, président de l'association Georges Perec.
Il y a des réels de la rue Vilain pour lesquels il avait même préparé les numéros d'immeubles au préalable pour ensuite avoir juste à remplir le descriptif ou la partie descriptive, si j'ose dire. Mais si on regarde rapidement, ici, on a des feuilles donc découpées avec une écriture vraiment parfois relativement difficile à lire puisque c'était écrit peut-être parfois juste sur la paume de la main. Ça, c'est une caractéristique, je dirais, de toutes les archives de Perec. Il y a un nombre invraisemblable de supports différents. Parfois, ce sont des feuilles de carnet, parfois, ce sont les versos de prospectus publicitaires. Enfin, bon, il y a une variété de supports absolument incroyables. Chez Perec, il y a une fascination pour la papeterie. Il aime les carnets, il aime les cahiers, il joue avec des tracettes, il a des tampons, il a des feutres. Et c'est ce qui explique que, très souvent, ces enveloppes ont des inscriptions qui répondent à une sorte de souci typographique ou de passion typographique, comme celle-ci. Par exemple, le premier réel de Vilain, qui date de février 69 et qui est fait avec des lettres au tampon, ce qui donne d'ailleurs une ondulation aux lignes, Vilain réel 138. Parfois, elles sont marquées par l'esthétique de l'époque. Tenez, si, celle-ci. L'esthétique est globalement pop. C'est celle de juillet 70, souvenir de Vilain.
Jeudi 27 février 1969, 17h10. Au café à la Marquise, au croisement de l'avenue Simon Bolivar et de la rue de Belleville, métro Pyrénées. Un café assis, 70 centimes. J'ai marché du CHU Saint-Antoine à la Nation. J'ai pris le métro de Nation à Couronne. J'ai pris la rue des Couronnes jusqu'à la rue Vilain que j'ai monté jusqu'à la rue Pia. La rue Vilain naît à la hauteur du numéro 29 de la rue des Couronnes. À gauche, en face des numéros 42, 42 bis, immeuble neuf, ou plutôt des HLM récentes mais déjà vieilles. Sur la gauche, côté impair, le numéro 1 a été ravalé récemment. C'était, m'a-t-on dit, l'immeuble où vivaient les Chouliewicz. Nulle boîte aux lettres dans l'entrée minuscule. Au rez-de-chaussée, un magasin. Jadis d'ameublement, la trace des lettres « meubles » est encore visible, qui se réaménage peut-être en mercerie, à en juger par les articles que l'on voit en devanture. Le magasin est fermé, non éclairé, comme presque tous les autres. Du numéro 2 parvient une musique de jazz revival, Sidney Bechet, plutôt Maxime Sori.
Chez Perec, évidemment, il n'y a pas que la mémorisation.
Annelies Schulte-Nordhold, professeur de littérature.
Parce que pourquoi est-ce qu'il rédige tous ces lieux? Pourquoi est-ce qu'il en fait des descriptions, etc.? On peut le voir comme un effort de d'enregistrer et d'en faire une espèce de conservatoire, hein, ou d'archive, ça c'est une chose. Mais il y a autre chose, il espère quand même aussi qu'en faisant ces descriptions, en passant dans tous ces points, dans tous ces endroits d'un lieu particulier, la rue Villain notamment, que ça sera une espèce de catalyseur de la mémoire. Donc il espère que ça va faire surgir des nouveaux souvenirs dont il n'était pas conscient, disons. Et à mon avis, ça a été le grand espoir que Perec a pu avoir. Le fait qu'un lieu peut être le conservatoire de souvenirs et qu'il peut les faire ressurgir, à propos de, notamment de la rue Villain. Parce qu'on peut même se dire que la rue Villain a été, en fait, que c'est le noyau du projet, hein, que ça a été la raison première de concevoir cet immense projet. Les autres 11 lieux, mais la rue Villain était le principal, puisque comme on sait, comme il le dit dans W, le souvenir d'enfance, je n'ai pas de souvenir d'enfance. Pas de souvenir de la mère, notamment, qui a été déportée à Auschwitz. Pas de souvenir du visage de la mère. C'est ce qu'il a travaillé, en fait, toute sa vie, ça. En faisant tout ce travail sur la rue Villain, il y avait ce grand espoir que quelque chose allait surgir qui était inconnu.
Au 24, c'est là que je vécus, non au 7, c'est très vilain d'habiter cette rue Villain. D'abord, un bâtiment à un étage, avec au rez-de-chaussée une porte condamnée, portant encore tout autour des traces de peinture et au-dessus, non tout à fait effacées, la mention « coiffure d'âme ». Puis un bâtiment bas avec une porte. La porte donne sur une longue cour pavée avec quelques décrochements, escalier de 2 ou 3 marches. À droite, un long bâtiment à un étage. Le bâtiment à un étage avec la porte condamnée en constitue donc la section, avec un double perron de béton. Au fond, un bâtiment informe. À gauche, des espèces de clapiers. Je ne suis pas rentré.
En fait, je crois que le drame intime de Perec, ça a été de vivre une situation d'extériorité à lui-même.
Isée Bernato, psychanalyste.
Qui en même temps a donné cette œuvre-là. Mais du coup, décrire les lieux, c'est tenter en... D'abord, je pense qu'il se sent extérieur au lieu. C'est quand même pas un hasard si dans son œuvre, ça revient « qu'est-ce que c'est qu'habiter une chambre ?» où il se demande de quelques emplois du terme « habiter ». Voilà, pourquoi ce mot « habiter », enracinement, ancrage, pourquoi ces lieux, pourquoi ces mots reviennent? Alors, en fait, il utilise son extériorité parce qu'il est devenu un génie de l'extériorité. En fait, il est devenu un génie de la description, de regarder. C'est-à-dire qu'il utilise cette position d'observateur extérieur, il en fait une œuvre. Mais je pense aussi que en décrivant comme ça, en épuisant, je reprends son terme, hein, en épuisant la rue Villain aussi, je pense qu'il tente à essayer de re-rentrer à l'intérieur, de se réapproprier, de faire un travail comme ça d'appropriation.
C'est curieux parce que au départ, lieu est conçu presque comme une performance d'écriture.
Jean-Luc Joly.
Forme d'immédiateté de la saisie qui doit s'installer. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui une écriture aussi factographique que possible. Et quand il réécrit, évidemment, commence à s'immiscer un souci littéraire. Les souvenirs, cela consiste, donc une fois par mois, à se souvenir d'un des 12 lieux et tranquillement chez soi, devant une machine à écrire, par exemple, de noter ses souvenirs. Ici, de la rue Villain, c'est le premier de ses souvenirs, qui est écrit au Moulin d'Andée, le 22 août 1969, vers 14h.
Souvenir d'école. Au sortir d'une classe ou d'une après-midi de dessin, je descends en courant la rue des Pyrénées, tenant à la main un dessin colorié que j'ai fait et qui représente un ours brun. Je cours et hurle quelque chose comme « Ah, les ours !» ou « Ah, les oursons !» et suis extraordinairement excité. Je crois encore me souvenir du mouvement même de la course tout au long de la pente de la rue des Pyrénées, gambadant ou sautillant, c'est-à-dire reprenant appel sur le pied où l'on vient d'atterrir, image difficile à préciser et que je viens d'exécuter et de faire exécuter à Thérèse dans la salle de la Meule. Ce type de course est très répandu chez les enfants. Il est signe d'insouciance et de jeu. Je me demande si mon enthousiasme ne fut pas brisé net. Par exemple, nul ne trouve mon dessin joli.
Là, c'est les souvenirs de la rue Villain. Alors, c'est des textes qui sont presque poignants, tellement il fait des efforts pour essayer d'extorquer quelques souvenirs de cette enfance, de ses premiers 6 ans, évidemment, avant la guerre où il y habitait.
Pourquoi il revient sur la rue Villain ? Pourquoi il va comme ça dans des lieux ? Je pense que le lieu est la maison, l'immeuble, avec l'inscription coiffure d'âme de la rue Villain. C'est quand même pour lui le signe tangible, concret, que sa mère a existé, qu'il y a eu quelque chose. Là, je crois qu'il y a... Ça prend sens aussi par rapport à l'extermination, par rapport à toute la tentative d'effacement des traces. L'immeuble, la maison, c'est quand même la preuve que tout ce qui est disparu dans l'amnésie traumatique, que tout ça, ça a bel et bien existé. Il y a une phrase que je trouve d'ailleurs magnifique, que Günther Anders écrit dans son journal d'exil, justement, il dit « Tout le monde sait que sa mère est mortelle, personne ne sait que sa maison est mortelle. Ben, » Je crois qu'effectivement, la maison, c'est le signe que la mère et la vie de famille a existé, mais c'est aussi ce qui reste, c'est aussi ce qui ne meurt pas et ce par quoi on peut tenter d'approcher, de retrouver quelque chose de celle qui a disparu. Et d'ailleurs, ce qui est assez quand même tragique, c'est que la maison de la rue Villain, l'immeuble, il a aussi été détruit. Donc là, je pense qu'il y a eu comme une espèce de réactualisation du traumatisme, c'est-à-dire... Ah ben en fait, même ça, en fait, rien ne tient, quoi.
Rien ne tient, et pourtant les écrits, les papiers, les archives restent. Quand je lis les textes de Lieu, ses efforts pour décrire numéro par numéro la rue Villain, qui se démolit sous ses yeux, ses tentatives poignantes de recherche de souvenirs, je me demande ce que Georges Perec aurait fait, aurait dit, aurait écrit des traces laissées dans les archives par son histoire, et celle des siens. Aux Archives nationales, on trouve le dossier de spoliation de l'épicerie que sa grand-mère Rose tient au croisement de la rue Villain et du 23 passage Pékin. Une politique systématique de spoliation des biens et entreprises dits « juifs » est engagée par les autorités d'occupation dès 1940 et mise en œuvre par le régime de Vichy. La grand-mère proteste contre ce qu'on appelle alors l'aryanisation de son commerce.
Le 29 septembre 1941, commissariat aux questions juives, 2 places des Petits Pères, Paris. Messieurs, nous sous-signés, monsieur et madame Peretz, établi épicier passage Pékin à Paris 20e, avons l'honneur de solliciter votre haute bienveillance de nous accorder une prolongation, de tenir notre boutique ouverte jusqu'à une date que vous voudriez bien nous fixer. Nous prenons la liberté d'indiquer les raisons suivantes. Nous sommes âgés de 70 et 65 ans. Notre fils André Perec nous a aidés par sa jeunesse et connaissances de bien maintenir notre commerce et ainsi notre substance matérielle. Dès 1939, mon fils, bien qu'étranger, est parti pour accomplir son devoir et il n'est plus retourné, étant tombé au champ d'honneur en juin 1940. Depuis, nous luttons durement pour nous maintenir nous-mêmes et pour pouvoir aider notre belle-fille et son enfant, la veuve de guerre. Ainsi, une prolongation nous aidera pour quelque temps. En vous remerciant d'avance pour votre considération favorable, nous vous prions d'agréer, messieurs, nos salutations respectueuses. Monsieur et Madame Peretz, établi épicier, 23 passage Pékin, à Paris 20e.
Il est possible aussi de retrouver, toujours aux Archives nationales, mention des conditions d'arrestation de la mère de Georges Perec. Je cite. Le 22 janvier 1943, la dame Perec était arrêtée sous prétexte qu'elle couchait hors de son domicile. Ce simple motif entraînait l'arrestation du père et la sœur de l'intéressé, le sieur Soulevitch et la demoiselle Soulevitch Fanny. Déportées, ces 3 personnes ne sont pas revenues. Sur l'archive, le mot « personne » est barré et remplacé par « israélite ». une fiche est ouverte au nom de Cécile, qui est alors devenue Sirla Perec Nechulevitch, le 23 janvier 1943, quand elle est internée à Drancy, le lendemain de son arrestation. Son statut de veuve de guerre ne la protège pas. Le 11 février 1943, elle figure sur la liste du convoi numéro 47 qui quitte Drancy pour Auschwitz avec son père, Aaron, et sa jeune sœur Fanny, âgée de 17 ans. Ce même jour, David Perec, l'autre grand-père de Georges, est lui aussi arrêté, interné à Drancy et déporté par le convoi numéro 49 le 2 mars 1943. Sirla, Aaron, Fanny et David Perec font partie des 84 habitants de la rue Villain déportés entre 1942 et 1944 pour Auschwitz.
C'est un piège pour Lambert de Georges Perec, qui a été arrêté rue Villain, probablement à la suite d'une dénonciation. Donc, elle est veuve de guerre depuis juin 40. Elle vivote de son métier de coiffeuse, qui a un tout petit, j'ose pas dire, cabinet de salon de coiffure. C'est une espèce de petit atelier, donc, au 24 de la rue Villain. Elle vit de peu. Il y a le petit Georges qui vit auprès d'elle, dans ce qui doit être gentiment un taudis. Le beau jour de janvier 43, elle va dormir chez son père qui habite au 1 rue Villain, donc un tout petit peu plus bas. Et c'est là qu'elle sera arrêtée, et elle sera arrêtée et déportée sous le prétexte qu'elle ne dort pas à son domicile. Et dans la même arrestation seront prises la petite sœur, Fanny, et son père. Tous mourront à Auschwitz.
Et il y a quelques années, je suis retourné à rue Villain. J'ai rencontré une dame qui sortait d'une maison située un peu plus haut, qui n'était pas encore démolie, qui l'est maintenant, qui m'a pris pour une sorte d'agent du cadastre, ou de quelqu'un qui venait faire des relevés concernant les arrêtés d'expulsion, des choses comme ça. Et qui m'a dit, ah monsieur, c'est bien triste, on va démolir ma rue, j'y suis depuis 1914. Alors je lui ai dit, mais non, c'est simplement, c'est une rue où je suis né juste à côté, j'ai vécu là quand j'étais petit. Ma mère était coiffeuse, 24. Et elle m'a dit, mais je m'en souviens très bien. Et puis elle a ajouté, elle n'est pas restée longtemps. J'ai trouvé ça, alors à la fois comme quelque chose de... D'abord, d'assez extraordinaire que, disons, quelqu'un entérine l'existence de ma mère, lui donne une objectivité que moi, je n'arrivais pas à saisir. Et puis ensuite, une sorte d'ironie assez terrifiante. Enfin, sous ce « elle n'est pas restée longtemps », elle n'est pas restée longtemps parce qu'elle a été prise dans une rafle. Et que par rapport à cette femme qui était là depuis 60 ans, elle était comme la trace de quelque chose où j'ai presque l'illusion de pouvoir me réinsérer, comme quelqu'un qui retrouverait son village, par exemple.
La question de la trace est centrale pour Perec, et justement les lieux nous refusent. C'est ce qu'il nous dit tout le temps, constamment, qu'on ne peut pas faire trace. Et d'une certaine façon, il n'est qu'un passant de la rue Villain. L'histoire n'a laissé aucune trace. Il y a vaguement peut-être l'inscription « Salon de coiffure »,« Coiffure pour dames », pardon, au-dessus de la porte. Mais sinon, rien. Le manque est fondamental. Il y a un épisode saisissant lors de sa psychanalyse avec Pontalis, c'est qu'un beau jour, il dit à Pontalis « Je voudrais la voir comme je vous vois ». Et Pourtalis, je lui réponds aimablement que justement, allongé sur le divan, il ne la voit pas. Et cette intervention a eu, semble-t-il, un effet thérapeutique sûr.
Tout à coup, elle est là. Il y a quelque chose justement d'une présence. Oui, c'est un mot que j'ai pas utilisé, mais je crois qu'il est important aussi. Difficulté à être présent. Parce que c'est la question des grands absents. Des absents majuscules, des disparus.
Je n'ai pas de souvenirs d'enfance. Jusqu'à ma 12e année à peu près, mon histoire tient en quelques lignes. J'ai perdu mon père à 4 ans, ma mère à 6. J'ai passé la guerre dans diverses pensions de Villard-de-Lans. En 1945, la sœur de mon père et son mari m'adoptèrent. Cette absence d'histoire m'a longtemps rassuré. Sa sécheresse objective, son évidence apparente, son innocence me protégeaient. Mais de quoi me protégeait-elle, sinon précisément de mon histoire, de mon histoire vécue, de mon histoire réelle, de mon histoire à moi qui, on peut le supposer, n'était ni sèche, ni objective, ni apparemment évidente, ni évidemment innocente. Je n'ai pas de souvenir d'enfance. Je posais cette affirmation avec assurance, avec presque une sorte de défi. L'on n'avait pas à m'interroger sur cette question, elle n'était pas à mon programme. J'en étais dispensé. Une autre histoire, la grande, l'histoire avec sa grande hache, avait déjà répondu à ma place. La guerre, les camps.
La question de la trace est centrale quand on travaille sur les camps, la guerre, les petites et les grandes haches. Collecter les traces, c'est lutter contre les efforts délibérés des maîtres d'œuvre de la Shoah pour effacer les empreintes de leur entreprise d'annihilation. Rassembler les archives, c'est tenter aussi de ne pas laisser les vies des victimes à la disparition. Pérec, d'une certaine manière, quand il place les textes de ses descriptions et de ses souvenirs dans des enveloppes, crée une archive. En 1974, il décide de les ouvrir pour écrire W ou le souvenir d'enfance, et par là, il met fin au projet de lieu.
L'idée d'échec pur, d'échec qui serait quelque chose de ou complètement raté ou complètement abandonné avant même de commencer, n'a pas beaucoup de sens pour moi. Par contre, ce qu'il y en a, c'est cette espèce d'attente que j'ai mise dans ce livre pendant plusieurs années, pendant 5 ans, cette espèce de fétichisme des enveloppes qui s'accumulait, parce que j'avais quand même 144 enveloppes, bon. Et puis cette espèce en même temps, pour finir sur une note gaie, ce sentiment de jubilation et de libération que j'ai eu quand je les ai ouvertes, quand j'ai cassé les sceaux, les cachets, et puis j'ai commencé à voir comment ces textes s'empilaient quand même entre eux, et puis allaient quand même donner quelque chose qui serait un compte-rendu de cette expérience.
Toutes les enveloppes de la rue Villain ont été ouvertes par Pérec ?
Les réels, oui. Les souvenirs, pas sûr, encore que ce qui n'avait pas été ouvert l'a été en 88-89. L'ayant droit de Georges Perec, Ella Binnenfeld, sa cousine, entreprend avec Philippe Lejeune d'ouvrir tout ce qui n'avait pas été ouvert. Eux-mêmes ont raconté comment ils venaient ici, à l'Arsenal, ouvraient les enveloppes et découvraient et lisaient un texte que personne n'avait lu avant eux, sauf Perec et encore, seulement quand ils l'avaient écrit. À partir de là, toutes les enveloppes ont été ouvertes. Pour la rue Villain, je suppose, mais ils n'ont pas tenu, eux, de journal, à ma connaissance du moins, de ce qu'ils ouvraient, de ce qui était resté clos, encore qu'on pourrait le savoir quand même, puisque il y avait cette mention, enveloppe restée close, non ouverte, et non cataloguée ou non numérotée. Donc à la limite, un petit travail de recherche, en se fondant sur cet élément-là, pourrait permettre de savoir, par exemple, si Pérec avait ouvert tout ce qui concernait la rue Villain. J'ai tendance à le penser parce que, évidemment, il s'en sert pour l'écriture de ce qui concerne la rue Villain dans W ou le souvenir d'enfance.
Nommé pour sauver de l'oubli, c'est ce qu'il faisait toujours.
Robert Baubert, cinéaste et ami de Georges Perec.
Et c'est ce qui me fait dire que s'il a arrêté en 75, au lieu d'arrêter en 81, c'est qu'il n'a pas voulu voir la maison de ses parents détruite. Il était un très grand lecteur de Queneau. Il avait lu tout Queneau. Queneau, en 67, dans Courir les rues, dit « Il faut que j'aille voir avant que tout ça disparaisse ». Lui aussi, il est allé voir avant que tout ça disparaisse. Mais il est arrêté d'aller voir avant que tout ça ne disparaisse. Parce que ça n'aurait pas été supportable. Ce n'était pas possible pour lui.
Il fallait que je me construise un monde, une maison, enfin, quelque chose qui me rattache à ma propre histoire.
Et elle vous manque aujourd'hui, cette enfance ? Cette enfance que vous n'avez pas eue ?
Non, je crois pas. Plus maintenant, enfin, je veux dire, il y a eu d'une certaine manière un combat qui s'est traduit par un livre pour moi très important, qui est à la fois une autobiographie et une fiction, qui est W ou le souvenir d'enfance, qui est la recherche de l'enquête sur cette existence, sur cette enfance, ces attaches dont j'ai été privé. Et d'une certaine manière, c'est la recherche de ses parents qui était mort, mais dont je n'avais même pas... Le problème, d'une certaine manière, c'était de retrouver la douleur que j'aurais eue, qui m'avait été dérobée, parce que finalement, quand mon père est mort, j'étais trop petit pour m'en rendre compte. Quand ma mère est morte, je ne l'ai pas su. C'était en 43, j'étais dans les Alpes. Et il a fallu que... Je ne sais pas, que je les enterre.
J'écris. J'écris parce que nous avons vécu ensemble, parce que j'ai été un parmi eux, ombre au milieu de leurs ombres, corps près de leur corps. J'écris parce qu'ils ont laissé en moi leur marque indélébile et que la trace en est l'écriture. Leur souvenir est mort à l'écriture. L'écriture est le souvenir de leur mort et l'affirmation de ma vie.
Au moment où j'ai écrit W, qui est un livre dans lequel j'évoque des souvenirs d'enfance, j'ai ouvert les enveloppes qui contenaient des descriptions de la rue Villain. J'ai regardé des photos que j'avais fait prendre par une amie en même temps que ces descriptions. Je m'en suis servi. Et surtout, comme à l'époque du W, j'étais extrêmement sensibilisé à cette rue Villain, à cette rue qui est en train d'être détruite, j'ai écrit un ensemble de poèmes accompagné de photographies, et je l'ai publié à compte d'auteur. Enfin, j'en ai fait une sorte de livre d'art qui s'appelle La Clôture, qui pour moi, une fois ce texte fait, je ne pouvais plus revenir. C'était devenu l'idée de venir périodiquement d'écrire ce que je voyais de la rue Villain était terminé, il n'avait plus de raison d'être.
Il me donnait toujours un exemplaire de ses livres. Quand j'ai vu ses photos et ses poèmes très...
Sylvia Richardson.
Très sombre, enfin très... c'est magnifique, mais c'est la clôture, c'est l'anéantissement, c'est pas de la poésie facile, mais le mot mort, clos, ça m'a fait un choc, je veux dire. Mais en fait, j'avais jamais pensé, non, à la rue Villain.
Clôture. Sa fin. Nul écrit. Sa mort n'a souci. L'expulsion trace sa ligne. Court sur toi. Clandestine. L'arc bouté au sol pincé, au flot inscrit sur le bon cadastre, où l'un seul naît corps.
Je sais pas, j'adorais tout ce qui était... tous les immeubles, toutes les maisons, toutes les usines qui étaient abandonnées,
Christine Lipinska, cinéaste.
Est-ce que c'est pour ça qu'il m'a demandé de photographier la rue Villain, qui était une rue, à l'époque, qui était complètement fermée, enfin fermée. Je veux dire, toutes les boutiques étaient... Il y avait des parpaings de ciment. Et non, un jour, il m'a dit, tiens, viens, on va à rue Villain, si tu peux faire des photos. C'était très, très, très simple, quoi. Enfin, c'était pas... Je ne savais même pas que la rue Villain avait une telle importance pour lui, à l'époque. C'est 17 photos, avec 17 textes. Et ce qui est drôle, comme anecdote, c'est que, bon, on l'a fait par souscription. C'est-à-dire, à l'époque, Georges, il n'était pas du tout connu. Hein. Enfin, pas connu, un peu connu, mais enfin, il n'avait pas la notoriété d'aujourd'hui. Et il m'a dit, on va faire une souscription. Donc, on a fait un devis. Ça coûtait 1000 francs, à l'époque. Il m'a dit, on va en faire 100 et on va les vendre 100 francs. Juste pour payer l'imprimerie et tout ça. Mais on n'a pas eu 100 personnes. Alors aujourd'hui, les gens se l'arrachent. Parce que vraiment, se l'arrachent, quoi. Un prix astronomique, quoi. Ce qui est drôle, c'est que on n'a pas réussi à trouver 100 personnes.
Le résultat de ce double travail est un livre que nous vous proposons aujourd'hui. Il se compose de 17 photographies de Christine Lipinska, accompagnée de 17 textes. Chaque photographie a été tirée en 100 exemplaires, format 18 par 24. Les textes ont été imprimés en caractères Chambord, corps 14 et 20, et tirés sur papier Périgord mat 120 grammes des papeteries de Ruichère. L'ensemble est présenté dans un coffret à l'italienne relié en toile bleu cendré doublé de velours noir. Cet ouvrage est tiré à 100 exemplaires, numéroté et signé par les auteurs. Nous le mettons en souscription jusqu'au 15 janvier 1976 pour la somme de 110 francs, correspondant au centième du coût de la fabrication. Envoyez votre chèque à Georges Perec, 13 rue Linné, 75 005 Paris, ou à Christine Lipinska, 13 rue Saint-Louis-en-Lille, 75 004 Paris. L'ouvrage sera envoyé au souscripteur à partir du 15 janvier 1976.
Rue Linné. Impression de pouvoir lui écrire. En 1976, Georges Perec habite le 5e arrondissement, loin de la rue Villain.
Après-guerre, après avoir été caché dans le Vercors, il revient à Paris.
Denis Cosnard.
Il ne reste plus rien de tout ça. Sa petite sœur, Janine, est morte au bout de 2 mois. Son père est mort en juin 40 dans l'aube des suites d'une blessure au ventre. Il s'était engagé dans l'armée. Son oncle, Abraham, qui vivait rue Villain, a été arrêté lors d'une rafle en 41, libéré, puis en fait déporté en novembre 42. La mère de Georges Perec, ensuite, à son tour, a été arrêtée rue Villain. Elle est arrêtée avec son père et sa sœur, Fanny, et tous sont déportés par le convoi du 11 février 43 et assassinés à Auschwitz. Et finalement, plus aucun membre de la famille n'habite rue Villain. L'épicerie a disparu, a été fermée. Le salon de coiffure où la mère de Perec travaillait a disparu. Le logement des uns et des autres ne sont plus à eux. Et Georges Perec se retrouve dans les beaux quartiers, parachuté en quelque sorte dans les beaux quartiers, parce que là, vraiment, un choc culturel, social, économique, gigantesque, puisqu'il passe d'un petit quartier insalubre et pouilleux au beau quartier, à un immeuble haussmannien, rue de l'Assomption, où habitent Martine Carole et Christian Jacques à l'époque.
Et j'ai passé ma petite enfance en partie à Paris et en partie dans la montagne, dans un collège à Villard-de-Lans. Ensuite, j'ai été adopté par une tante à Paris, après la guerre, par la sœur de mon père. Et j'ai fait des études pas très très brillantes.
Enfin, à l'école communale.
J'ai fait une année à l'école communale, j'ai fait 2 années au lycée Claude Bernard. Ensuite, je suis allé dans un collège à Étampes.
On est dans le 16e arrondissement. Voici le registre d'inscription à l'école primaire du 15 rue des Bauches, dans le 16e. Alors, dans ce registre, on constate que Georges Perec est inscrit sous le numéro matricule 6946 et dans les noms et prénoms des parents, on indique qu'il est orphelin, pupille de la nation et on voit la mention Madame Bienenfeld, qui est le nom de sa tante chez qui il réside après la guerre. Et le cours dans lequel il rentre, c'est la classe de CM2A. On a une belle observation sur le caractère de Georges Perec. Enfant vif, étourdi, assez indiscipliné, mais très intelligent, travail régulier et peu soigné.
C'était le 11 mai 1947. Il avait 11 ans et 2 mois. Il venait de s'enfuir de chez lui, 18 rue de l'Assomption, 16e arrondissement. Il portait une veste de drap grise à 3 boutons, une paire de culottes courtes bleu marine, des chaussures marron, des chaussettes de laine bleue. Il portait un cartable de simili-cuir noir. Il avait pour toute fortune 23 francs et pour seule espérance une petite collection de timbres qu'il comptait vendre au plus vite.
Appréciation du professeur de français, passable.
Au troisième trimestre, le professeur indique très faible, insupportable en classe. Moi aussi, j'étais ravie de le découvrir sur ce livre scolaire.
Avec sa cravate, sa chemise, il est en costume. Ouais, c'est très, très émouvant. Il a en effet on le reconnaît complètement. Elle est magnifique, cette photo. C'est sur la couverture du livre scolaire.
Collège des Temps.
On est en 1951, donc il a 15 ans.
Lorsque 20 ans plus tard, il entreprit de se souvenir, lorsque 20 ans plus tard, j'entrepris de me souvenir, tout fut d'abord opaque et indécis. Puis les détails revinrent un à un. La bille, le banc, le petit pain, la promenade, le bois, les rocailles, le manège, les marionnettes, le portillon, la rue de l'Assomption, le métro, les métros, l'illustré, l'homme, les agents, le sandwich et le bol, le grand bol de faïence blanche, aux bords ébréchés, au fond couvert de stries grisâtres, dans lequel il avait bu de l'eau, dans lequel j'avais bu de l'eau. Et il demeura tremblant un long moment devant la page blanche. Et je demeurai tremblant un long moment devant la page blanche.
En 82, lorsqu'on annonçait la mort de Perec, j'ai eu envie d'aller rue Villain. Et j'ai vu qu'on démolissait les dernières maisons. Et puis, 10 ans après sa mort, je me suis dit, j'ai envie de lui rendre hommage. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de faire ce film sur la rue Villain. J'ai commencé à chercher des photographies de la rue, puisqu'elle n'existait plus. Il y a eu quelques films qui avaient été tournés dans le coin, mais ça ne montait pas la rue. Et puis je connaissais quelques photos de Doineau, je connaissais Doineau et Will Ronis personnellement, et j'ai commencé avec une documentaliste à chercher partout. Toute l'année 91, j'ai trouvé près de 500 photographies de la rue.
Le film de Robert Bobert, En remontant la rue Villain, date de 1992. Au-delà de l'hommage, il offre à voir une reconstitution photographique de toute la rue Villain, numéro par numéro. Partir d'une histoire singulière peut revenir à chercher, par emboîtement, à situer cette petite histoire dans une histoire plus collective, celle d'une famille, d'un immeuble, d'une rue. Enquêter sur le lieu d'enfance de Perec ouvre sur l'histoire des habitants de la rue Villain, de leurs existences et de leurs disparitions.
Ça raconte une vie, ce qu'était le monde parisien populaire pendant quelques décennies. Ce monde n'existe plus. Et il y a des gens qui n'arrêtent pas de me dire faut pas être nostalgique, etc. Mais il y a une phrase de Vladimir Jankélévitch qui va y le tout. Il dit la nostalgie est un souvenir inapaisable. Voilà, donc on continue.
Quel est votre lieu d'enfance ?
Mon lieu d'enfance, Paris 19e.
La cuisine. La cuisine de ma mère.
La campagne. La campagne près de Lyon.
Alors, je dirais Haute-Chouénéa.
Un lieu d'enfance qui s'appelle Mussy-sur-Seine, qui est un village de l'Aube.
Donc, c'est une pièce ronde parce qu'elle est au rez-de-chaussée d'une tour.
Le Pradelis.
C'est une très jolie maison qui était l'ancien presbytère du village.
C'est un ancien moulin, probablement.
Mon port d'attache, mon cœur d'attache est là.
Saint-Géry.
Les quartiers juifs au Maroc s'appellent le Mella.
Près de Rennes, une grande maison.
Mon lieu de l'enfance, je dirais que c'est la maison de ma grand-mère.
Des tomates rouges.
Je dirais la banlieue sud.
Et puis une table ronde aussi, une table en bois ronde.
Mon lieu d'enfance ?
Chicago.
Ah, moi, j'ai été élevée à Neuilly. Mais un lieu fort d'enfance, c'est en fait la maison de campagne en Eure-et-Loir, à Blévy.
Pour moi, comme pour une vraie exploratrice, c'est plusieurs endroits. C'est Varsovie, où je suis née, c'est Zamość, où j'ai fini mon lycée artistique, c'est Szczebrzeszyn, où j'allais voir mes grands-parents qui y habitaient, et maintenant c'est Lubartów.
Merci à Sylvia Richardson, Claude Burgelin, Robert Bobert, Denis Cosnard, Joseph Pantaléo, Dominique Juigné, Anne-Lise Schultz-Northolt, Christine Lipinska, Jean-Luc Joly et Isée Bernato. Merci aussi à Yacine Chitour, Olivier Dohu, Pauline Funk, Béatrice Herold, Perrine Kervran, Laurent Joly, Ruth Zilbermann et Abby Bachaouche. Lecture, Benjamin Habitant, Olga Grimbert. Prise de son, Patrick Muller, Christophe Papon. Mixage, Nadège Antonini. Documentation, Anne-Lise Signoret. Archivina, Véronique Jolivet. Chargée de programme, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Johanna Bedeau. Sur les lieux de Georges Perec, La rue Villain, le lieu de l'enfance. Un documentaire de Claire Zalk, réalisé par Diffy Mariani. Les pages web sont sur franceculture.fr et le podcast sur l'appli Radio France.